Et nous en parlerons avec nos deux esprits libres du jour, l'éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron. Rendez-vous à 8h40.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Bonne journée, bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Œil pour œil, dent pour dent, voilà l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron rappelle l'ambassadeur de France et renvoie 12 agents algériens. Le retour de la menace de l'écran noir pour le football français, la Ligue et son principal diffuseur au bord de la rupture. Et puis connaissez-vous l'éco-anxiété, l'angoisse qui monte au rythme du dérèglement climatique? 4 millions de Français en ont des symptômes.
À suivre, François Bayrou, pédagogue, en attendant les mesures concrètes dans l'édito d'Étienne Lefebvre. Enfin, Bertrand Dumazy, le directeur général d'Edenred, sera la voix de l'économie à 7h15. À la une, Virginie, la France choisit donc le bras de fer avec l'Algérie.
Puisque crise diplomatique il y a, on rend coup pour coup. L'Algérie expulse 12 fonctionnaires français. La France rappelle son ambassadeur et renvoie 12 agents algériens. Emmanuel Macron opte pour la réplique en miroir. La fermeté a remplacé la stratégie de l'apaisement, Lauriane Toulmont.
Dans 48 heures, l'ambassadeur de France en Algérie sera de retour sur le sol français.
C'est une mesure de protestation, d'opposition, si l'on peut dire, à la mesure qui a été prise par l'Algérie et qui est très regrettable parce qu'elle compromet le dialogue que nous avions réinitié.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans le JT de 20h sur TF1 hier soir.
Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade. Et donc, nous répliquons avec fermeté, avec la plus stricte réciprocité.
Devenu la bête noire de l'Algérie, le ministre de l'Intérieur était, lui, quelques minutes plus tôt sur CNews, Bruno Retailleau.
La fermeté, je l'ai d'abord prônée seul un peu dans le désert. J'ai toujours pensé que avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force. Il est inacceptable que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens.
Quid des deux sujets dits irritants, selon les mots de la diplomatie française? D'abord, l'immigration. La France entend expulser une soixantaine d'Algériens. L'Algérie pourrait bloquer leur renvoi en refusant de délivrer des laissez-passer consulaires. Enfin, le sort de Boualem Sansal est en suspens. Âgé et malade, l'écrivain franco-algérien est toujours incarcéré en Algérie sous le coup d'une condamnation à 5 ans de prison.
Les deux filles de Boualem Sansal appellent Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite dans une tribune dans le Figaro. Elles qualifient cette demande faite au président de dernier élan d'espoir. Des voitures incendiées, des tirs de Kalachnikov, des tags mystérieux, 9 prisons françaises attaquées entre dimanche et hier. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est rendu hier à la prison de Toulon-la-Farlède où il a tenté de rassurer des agents pénitentiaires forcément inquiets, Charles Ducrot.
Les tirs à l'arme automatique à plus de 10 reprises ont troué et brisé les vitres de cette prison de Toulon où s'est rendu le garde des Sceaux. Gérald Darmanin évoque un acte terroriste visant à déstabiliser l'État, cite des menaces perpétrées à l'encontre des prisons de Vendin-le-Vielle et Condé-sur-Sarthe, récemment placées haute sécurité pour accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Une mesure qui fait sans doute peur, souligne le ministre de l'Intérieur, avant de nommément citer Mohamed Amra après son évasion sanglante d'Incarville l'an dernier. Vous pouvez le remercier, déclare le ministre, comme pour envoyer un message. L'enquête du parquet national antiterroriste doit maintenant déterminer la nature de cette attaque coordonnée inédite. L'origine d'un sigle, DDPF, en peinture noire, pour droit des prisonniers français, un slogan identifié dans certaines menaces émanant de mouvements radicaux d'ultra-gauche. Est-ce une revendication? La signature de groupuscules agissant sous les ordres d'une organisation liée au narcotrafic? Aucune piste n'est écartée à ce stade.
Des policiers et des gendarmes sont mobilisés autour des prisons pour assurer la sécurité des agents pénitentiaires. Wilfried Funk, le secrétaire général du syndicat UFA-PUNSA, redoute d'être au début d'une offensive encore plus conséquente et il demande des actes.
Aujourd'hui, la crainte, c'est surtout que l'organisation qui est derrière les attaques de la nuit dernière, finalement continue à pouvoir agir en toute impunité. La crainte également, c'est que on sait que de toute façon, on n'est pas en position de force. Il y a 82 000 détenus pour environ 30 000 personnels. Donc voilà, vous avez vite fait le ratio en termes de rapport de force. Donc aujourd'hui, il est important que le gouvernement prennent le sujet de la prison à bras-le-corps. La prison est malade depuis plus de 40 ans. Effectivement, les personnels pénitentiaires sont des représentants de l'État, de son autorité, et aujourd'hui, ils ont besoin du soutien du gouvernement pour soutenir leur action au sein des établissements.
Pierre Palmade va sortir de prison ce matin. L'humoriste a obtenu un aménagement de sa peine. Il va être libéré sous bracelet électronique. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme, coupable de blessures involontaires sur une famille après un accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants.
7h et bientôt 5 minutes sur Radio Classique. Le football français se retrouve encore au bord du précipice.
Oui, sur le terrain, tout va bien. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont perdu 3-2 hier soir contre Aston Villa en quart de finale retour. Mais comme ils avaient gagné 3-1 à l'aller, ça passe. Non, le problème n'est pas sur le terrain, mais sur les écrans. La Ligue 1 est son principal diffuseur au bord de la rupture. La Ligue veut rompre le contrat avec DAZN en fin de saison, mais la plateforme britannique n'accepte pas de séparation à l'amiable. Ce sont les clubs et les fans qui risquent de trinquer, Chloé Sénard.
Ce qui inquiète le plus les amateurs de foot français, c'est où vont-ils pouvoir regarder les matchs en cas de rupture définitive entre la Ligue de football professionnel et DAZN. L'idée de la LFP de lancer sa propre chaîne pourrait être à nouveau discutée. Mais l'option à court terme impliquerait de faire une croix sur les droits apportés par un diffuseur externe. L'autre option serait de relancer un appel d'offres avec un choix assez limité, Canal+, préférant se concentrer sur la Ligue des Champions. Le contrat entre la LFP et DAZN devait aller jusqu'en 2029, mais risque de se terminer avant. Hier, le conseil d'administration de la LFP a proposé aux diffuseurs de la Ligue 1 de payer 140 millions d'euros pour la fin de cette saison et une indemnité entre 110 et 125. 5 millions pour la suivante. Une proposition qui ne convient pas à DAZN car il réclame à la LFP devant les tribunaux 573 millions d'euros pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Le diffuseur critique le manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le produit Ligue 1. DAZN stagne à environ 500 000 abonnés contre un objectif affiché d'1,5 million pour décembre 2025.
Merci Chloé Sénard. Un diagnostic mais pas encore de remède. François Bayrou alerte les Français sur la situation des finances public et une dette qui menace l'avenir du pays. Pour le Premier ministre, la France ne travaille pas assez, ne produit pas assez. Il détaillera les économies qu'il compte faire avant le 14 juillet. Un département entier sous tutelle, le Conseil départemental de Charente n'a pas réussi à voter son budget 2025. À partir d'aujourd'hui, il est mis sous tutelle préfectorale, ce qui est une situation extrêmement rare pour une collectivité de cette taille. La Chine ne lâche rien face aux États-Unis. Elle refuse la livraison d'avions commandés à Boeing et la Poste de Hong Kong suspend les envois de colis vers les États-Unis. La Chine qui annonce une croissance de 5,4% au premier trimestre, plus élevée que prévu. Comment rendre compte de ce qui se passe sur le terrain quand les journalistes sont pris pour cible? Depuis le début de la guerre à Gaza, près de 200 journalistes ont été tués. Un rassemblement est organisé à Paris aujourd'hui par les syndicats de journalistes pour exprimer leur solidarité. Jonathan Dagger, le chef du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières, accuse l'armée israélienne de viser les reporters.
On a eu beaucoup de crimes qui ont été commis contre les journalistes pendant qu'ils avaient leur caméra à la main. Le fait de mettre un gilet, un casque marqué presse, ça doit protéger les journalistes partout dans le monde. Mais malheureusement, ça les transforme en cibles, au point où parfois, quand ils veulent se réfugier auprès, par exemple, des voisins ou d'autres familles, les gens ont peur des journalistes, parce que même les gens à Gaza pensent que les journalistes sont des cibles. Et les chiffres le montrent. Quand on parle d'au moins 43 parmi ces 200 journalistes tués pour lesquels on sait qu'ils étaient soit en train de travailler ou ils avaient reçu des menaces, ou il y a eu des frappes par drone directement sur l'endroit où ils étaient. Alors là, on peut affirmer en fait qu'il s'agit d'un ciblage. Le but, c'est d'empêcher l'information de sortir.
Jonathan Dagger répondait à Lucie Dupressoir.
Et à 7h08, on va maintenant s'intéresser, Virginie, au phénomène de l'éco-anxiété.
Ça peut devenir le mal du siècle. Il grimpe au rythme des températures que nous dévoile régulièrement l'Observatoire Copernicus. Le dérèglement climatique provoque de l'éco-anxiété. Plus de 4 millions de Français sont touchés, selon l'ADEME, l'Agence de la Transition énergétique. Ils sont même 420 000 à être susceptibles de basculer vers une dépression sévère, Rémi Fister.
Sentiment de mal-être, insomnie, isolement social, l'éco-anxiété affecte majoritairement les 25-34 ans. Mais tous les âges sont concernés, prévient le psychothérapeute Pierre-Éric Sutter, auteur du rapport.
C'est ce qui m'a sidéré, c'est que c'est le tout venant. J'ai par exemple eu une fois une grand-mère qui est venue me voir en me disant « Moi j'ai peur que ma fille engendre de nouveaux enfants parce que je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir vivre dans 50 ans. C'est terrible parce qu'il fera aussi chaud à Lyon qu'à Alger, m'a-t-elle dit. » Et elle m'a dit « Ben si à Lyon on n'a pas prévu de faire pousser des dattes ou des figues, on n'aura plus rien à manger. » On est dans des crises existentielles. existentielles très fortes qui concernent pas seulement que les jeunes.
Ces angoisses liées au changement climatique peuvent se transformer en dépression si elles ne sont pas traitées à temps par une psychothérapie, prévient Pierre-Éric Suter.
Dès lors qu'on a régulé les émotions négatives et qu'on a trouvé un éco-projet qui les guide vers l'action et qui leur redonne leur pouvoir d'agir, à ce moment-là, les éco-anxieux vont beaucoup mieux et ils peuvent même être des éco-ambassadeurs de la transition parce que ils ont conscience des problèmes, ils savent quelles sont les bonnes solutions qui peuvent marcher et à partir de là, ils peuvent contribuer à la transition écologique et donc ils peuvent la démultiplier.
Problème sur les 78 000 psychologues que compte la France, à peine plus d'un millier sont formés à traiter l'éco-anxiété, un mal croissant qui pourrait toucher 10 millions de Français d'ici 2030.
On lit moins aujourd'hui, ça on vous en a déjà beaucoup parlé, et quand on achète un livre, c'est de plus en plus souvent un livre d'occasion, 20% des ouvrages vendus. Le problème pour les auteurs, c'est qu'ils ne sont pas rétribués sur ce marché. Emmanuel Macron propose d'étendre les droits d'auteur aux livres d'occasion. Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national des éditeurs, applaudit des deux mains.
Le livre d'occasion, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était un achat complémentaire. On est maintenant sur des pratiques qui n'ont plus rien à voir. Les livres d'occasion sont disponibles au lendemain de leur parution. On a des réservations de titres sur Internet. Pour un roman policier, un livre sur deux vendu est déjà aujourd'hui un livre d'occasion. Ça veut dire que les auteurs perçoivent des droits sur un livre sur deux. On évoque couramment un chiffre de l'ordre, en moyenne de l'ordre de 30 centimes par exemplaire. Et s'il n'y a pas un mode de régulation et de compensation, il y aura des dégâts très profonds sur l'ensemble de la création éditoriale, que ce soit du côté des auteurs et du côté des éditeurs.
Des propos recueillis par Servane de Pastre. Et puis, on n'a jamais aussi peu bu de vin. Depuis 1961, un recul de la consommation mondiale de 3,3% en 2024 par rapport à l'année précédente, Marc.
Donc, si j'ai bien compris, Virginie Fulpin, il faut lire des livres et puis boire modérément, donc, hein, mais continuer
savourer
quelques vins. C'était le journal de Virginie Fulpin. Un diagnostic, mais peu de remèdes. Étienne Lefebvre revient sur le discours de François Bayrou dans son édito écho, dans un instant, Radio Classique, 7h11.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h12, l'édito de l'économie avec le journal Les Échos et avec Étienne Lefebvre. Bonjour Étienne.
Bonjour Marc.
François Bayrou a lancé l'alerte hier sur la situation budgétaire de la France.
Oui, le Premier ministre était dans son meilleur rôle, celui de pédagogue, pour dresser un constat assez juste sur l'état financier du pays, mauvais élève de la classe européenne et menacé de perte de souveraineté si rien n'est fait, avec une charge de la dette qui devrait grimper à 100 milliards d'euros d'ici 4 ans, un gouffre, et des marchés qui risquent de délaisser les obligations françaises en cas de nouvelle dégradation de la note. François Bayrou met donc en garde contre un cercle vicieux potentiellement irréversible. Il a 100 fois raison, d'où cette trajectoire de retour sous les 3% de déficit d'ici 2029 qui doit être transmise dans les prochains jours à Bruxelles. Un objectif très ambitieux, sachant que la croissance est revue à la baisse cette année mais aussi en 2026 et qu'il faut intégrer une hausse programmée du budget des armées.
Objectif ambitieux, mais côté mesure, Étienne, rien de concret à ce stade.
C'est tout le problème. En effet, Bercy estime qu'il faudra trouver 40 milliards d'euros dès le budget 2026 et 110 milliards d'économies d'ici à 2029 afin de réduire les dépenses publiques de 6%. Alors même s'il ne s'agit pas d'une baisse en valeur absolue, mais par rapport à la hausse tendancielle des dépenses, un tel coup de frein serait inédit. Il faudra donc prendre des mesures drastiques sur les arrêts maladie ou le niveau de vie des retraités, par exemple la fin de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions et notamment sur la table. Mais comment comment faire passer un tel budget. La méthode Bayrou consiste à prendre à témoin les Français et à miser sur l'émergence d'un consensus. Mais à en juger par les postures des politiques comme des syndicats conviés hier à Matignon, cela paraît un peu naïf. Le Premier ministre donne rendez-vous dans 3 mois. Il devra d'ici là forcer sa nature pour trancher dans le vif.
L'édito écho d'Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonne journée Étienne, 7h14 sur Radio Classique. Tout de suite, l'essentiel de l'économie. Et à la une, après les puces électroniques, Donald Trump vise désormais le secteur de la pharmacie. Le président américain veut faire baisser le prix des médicaments et ouvre une enquête sur les importations de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Les géants mondiaux de la pharmacie demandent à l'Europe de réagir. 32 laboratoires ont envoyé un courrier à la présidente de la Commission avec des conditions pour rester implantés sur le territoire européen. La croissance de l'économie chinoise a atteint 5,4% au premier trimestre, un chiffre supérieur aux attentes. Mais les perspectives s'assombrissent pour les prochains mois. Le Bureau national des statistiques prévient que l'environnement économique mondial va devenir plus complexe et plus difficile. Le foot français est-il menacé par une nouvelle crise financière? La Ligue de football professionnel et le Britannique DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Malgré une médiation organisée par le tribunal de commerce, un bras de fer qui n'est pas sans rappeler le scandale de Mediapro en 2021 qui avait fait plonger les clubs de foot dans une situation financière très tendue. Les Français vont devoir travailler davantage. Il y a urgence, estime le Conseil national de productivité dans son dernier rapport. La productivité en France a décroché depuis la crise du Covid et nous n'avons pas réussi à inverser la tendance, contrairement à nos principaux voisins européens. 7h15 sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Les voix de l'économie, Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin est le directeur général d'Edenred.
Bonjour Bertrand Dumazy.
Bonjour Stéphane Pedrazzi.
Bienvenue sur Radio Classique. Edenred est le spécialiste des titres prépayés, notamment le plus connu d'entre eux, Ticket Restaurant, qui est même devenu un nom générique et qui devrait d'ailleurs subir quelques ajustements dans les prochains mois. On va en parler. On va également parler de vos résultats, de vos chiffres d'affaires en fait trimestriels, publiés il y a quelques minutes, plus 6,7% pour le chiffre d'affaires du premier trimestre et surtout des objectifs confirmé pour l'ensemble de l'année. D'abord, la guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a suspendu une partie des droits de douane pour une durée de 90 jours, mais il a prévenu qu'aucun pays ne serait épargné. Est-ce que vous êtes inquiet, sachant que vous êtes présent aux États-Unis?
Oui, nous sommes présents aux États-Unis, mais nous sommes un modèle multilocal de services digitaux. Ça veut dire que nous n'importons rien, nous n'exportons rien, et donc nous ne sommes pas concernés par les barrières douanières éventuelles.
Est-ce qu'il y a néanmoins un impact indirect qui pourrait vous affecter? Je pense notamment aux conséquences sur l'emploi aux États-Unis.
Oui, en fait, l'impact indirect, comme toutes les entreprises, nous sommes soumis à la croissance mondiale. Et donc, si la croissance mondiale ralentit du fait de mesures de rétorsion, de guerre commerciale, on subira en fait ce ralentissement mondial qui, pour nous, peut se traduire de deux manières. La première, c'est une hausse du chômage et donc moins de salariés à l'échelle mondiale à servir, mais aussi dans nos activités de mobilité qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires, peut-être moins de kilomètres parcourus, puisque moins d'activités économiques. Donc, de manière indirecte, c'est quelque chose que nous regardons de près. Cependant, nous sommes aussi sensibles au taux d'intérêt et à l'inflation, ce qui peut être un effet négatif sur l'économie, sur ces deux points, et positif pour Edenred.
Justement, les économistes préviennent que les droits de douane pourraient avoir un effet inflationniste aux États-Unis. Pour vous, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle?
Alors, un effet inflationniste aux États-Unis et dans le reste du monde. Encore une fois, Edenred est présent dans 45 pays, et donc un petit peu d'inflation dit plus de pouvoir d'achat pour les salariés et c'est là où les solutions que nous proposons font merveille.
Vous venez de présenter votre chiffre d'affaires trimestriel, 6,7% de hausse à données comparables, 724 millions d'euros. Vous avez également confirmé votre objectif 2025 pour une croissance de l'EBITDA, donc le revenu brut d'exploitation, d'au moins
10%. Le bénéfice,
ouais, d'au moins 10% en données comparables.
Oui, c'est bien cela.
Quel a été le moteur de ces résultats?
Alors, le moteur de ces résultats, ça a été drivé par deux choses. La première, c'est notre activité mobilité, qui est en croissance à deux chiffres. Et comme Edenred est présent dans l'ensemble du monde, en fait, l'ensemble du monde tracte une croissance à deux chiffres. Et on constate un ralentissement en Europe, puisque notre croissance en Europe a été de l'ordre de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dehors de l'Europe, l'activité d'Edenred est en croissance à deux chiffres. En Europe, un ralentissement qui est dû en fait à ces perturbations macroéconomiques, notamment sur les grandes locomotives de l'économie européenne que sont la France et l'Allemagne.
Vous avez des relais de croissance, notamment en Amérique latine.
Oui, alors en fait, quand on regarde notre croissance, elle est à deux chiffres partout sauf en Europe. Et quand on regarde en fait nos activités cœur et les activités qu'on appelle complémentaires, nos activités complémentaires qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires sont aussi en croissance à deux chiffres. Alors activités complémentaires, on ne le sait peut-être pas, mais si Amazon, par exemple, en Europe, a des flottes de véhicules qui livrent chez vous un certain nombre de colis, ces flottes de véhicules sont alimentées en énergie, et notamment alimentées en énergie électrique, grâce aux solutions Edenred.
Vous arrivez cette année au terme de votre plan stratégique 2022-2025, période qui a été marquée par la guerre en Ukraine, par la forte hausse des prix de l'énergie, par l'inflation et maintenant par la guerre commerciale avec les États-Unis. Est-ce que vous avez dû revoir certains objectifs à la baisse ?
Alors, sur ce plan stratégique, il n'y a pas eu de revue à la baisse. Je rappelle que sur ces trois dernières années, en fait, si vous regardez le bilan, on emploie 30% de collaborateurs en plus, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 1,8, notre profit opérationnel a été multiplié par deux et on sert 10 millions d'utilisateurs supplémentaires dans le monde, ce qui veut dire que ça a été une période de très forte croissance qui valide cette stratégie. En revanche, quand je dis rien n'a été revu à la baisse, à l'exception de notre croissance de profit opérationnel en 2025, où on pensait faire 12% et l'objectif fixé est à 10%.
Vous allez présenter un nouveau plan stratégique en fin d'année. Il y aura un Capital Market Day en fin d'année. Est-ce que vous allez par exemple conserver l'objectif net zéro carbone à horizon 2050?
Nous allons garder cet objectif à 2050. Les engagements d'Edenred sont des engagements dans la durée et nous devons tous participer à la décarbonation de notre économie. Les ressources en carbone sont des ressources finies et donc il faut œuvrer à transformer nos modèles.
Le gouvernement travaille actuellement sur une réforme des titres restaurants, notamment sur la question de leur utilisation dans les épiceries et les grandes surfaces pour acheter des produits alimentaires bruts non transformés. Vous pensez qu'il faut conserver cet avantage? Les restaurateurs y sont opposés?
Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est revenir à l'essence de ce qu'est un titre restaurant. C'est une mesure d'équité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. C'est donc de l'alimentation saine au travail. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit alimentation saine, cet avantage social, qui est l'avantage social préféré des Français, permet en fait d'aller accéder tous les jours à un repas chaud. Et un repas chaud et prendre une pause pour la santé des Français, mais la santé aussi des 60 millions d'utilisateurs que nous servons dans le monde, est absolument critique, puisqu'on sait que nous sommes ce que nous mangeons. Si vous ne vous arrêtez pas pour faire une pause déjeuner, si vous n'accédez pas à une alimentation saine, alors les risques de maladies cardiovasculaires sont importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une alimentation saine au travail. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre cette alimentation saine qui est servie par les restaurateurs, mais aussi les nouveaux modes de consommation. Mais n'oublions pas que c'est une alimentation saine au travail, équitable entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas.
Mais justement, le fait d'acheter des produits alimentaires non transformés, est-ce que c'est pas le premier pas vers une alimentation saine? On sait que la majorité des salariés qui utilisent leur ticket restaurant vont acheter des sandwichs au coin de la rue dégoulinent de mayonnaise.
Ouais, alors ça n'est pas la majorité des salariés. L'immense majorité des salariés...
Alors les salariés de Radio Classique ont de mauvaises habitudes. Ouais.
Mais on peut en parler, j'espère que vous avez des tickets restaurants. Mais en fait non, l'immense majorité des Français va dans la restauration pour manger une alimentation saine. Et surtout, déjà, dans un premier temps, il mange. C'est-à-dire que si vous interrogez un utilisateur de ticket restaurant, il vous dira que grâce au ticket restaurant, il saute deux fois moins de repas à déjeuner que quelqu'un qui n'en dispose pas.
Donc, pour être clair, vous pensez qu'il faut un juste équilibre, mais vous comprenez la colère des restaurateurs?
Je comprends la colère des restaurateurs, puisque quand on déséquilibre un système, il y a toujours un gagnant et un perdant, et je fais confiance au gouvernement pour trouver un juste milieu.
Est-ce que vous êtes favorable, comme certains l'ont évoqué, à l'instauration de deux plafonds de paiement, c'est-à-dire un plafond pour les commerces alimentaires et l'autre peut-être plus élevé pour les restaurateurs?
Alors écoutez, nous d'abord, notre métier, c'est de pouvoir mettre ça en œuvre. Et donc, grâce à notre technologie et à ce qu'on fait dans le monde entier, c'est possible. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, je fais confiance à Madame la Ministre, à nouveau, pour trouver un juste milieu.
Certains restaurants n'acceptent pas les titres restaurants en raison du montant des commissions. Est-ce que le sujet est actuellement en discussion ?
Alors, d'abord, c'est une fausse information. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de commerçants qui acceptent le ticket restaurant, c'est en hausse chaque année. Ça veut dire que globalement, et ça n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout dans le monde, la reconnaissance du volume qui est apporté du travail que nous faisons se traduit par les chiffres. Il y a de plus en plus de commerçants dans le monde, y compris en France, qui acceptent ce mode de paiement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que tout travail mérite salaire et donc cet apport de volume d'affaires doit être rémunéré.
Un dernier mot, vous ne proposez pas uniquement des tickets restaurants. La catégorie qui actuellement connaît une forte croissance, ce sont ce que vous appelez les cartes mobilité, c'est-à-dire cartes essence, cartes péage, mais aussi, et c'est relativement nouveau, les cartes de recharge électrique.
Absolument. Donc, avec une carte Edenred, vous avez accès à plus de 700 000 points de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride partout en Europe. Et ça n'est pas que les véhicules. On vient de signer un partenariat avec Daimler, qui est un des plus gros constructeurs de camions. Et grâce à Edenred, les camions Daimler, futurs camions électriques, vont accéder à des centaines de points de recharge partout en Europe. Et donc, Edenred contribue, en fait, à la révolution électrique et de la mobilité électrique en Europe.
Merci beaucoup Bertrand Dumazy, président directeur général d'Edenred. Marc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je ne crois pas que les cartes de recharge électrique vont fonctionner avec votre trottinette.
Pas tout de suite, en tout cas pour l'instant, malgré la trottinette. Merci
on
en tout cas
occuper.
À tous les deux. On va voir ça exactement, merci beaucoup et à demain Stéphane, 6h pour une nouvelle matinale de l'économie. Dans deux minutes, Michel Barnier, le retour dans les coulisses de la politique de Marcelo Westfred. Et si nous parlions français avant cela avec Karine Dijou. Bonjour Karine.
Bonjour Marc.
On va s'attaquer ce matin au pléonasme.
C'est un rendez-vous qu'on aime bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par...
talonner de près.
Talonner signifie suivre de très près.
Oui.
On dira donc le coureur a talonné son concurrent ou alors le coureur a suivi de très près son concurrent. Ce verbe est formé à partir du mot talon, ce qui signifie qu'il lui marche littéralement sur les talons.
Rédiger par écrit.
Ben oui, rédiger, c'est écrire un texte.
Oui.
Donc on rédige ou alors on met par écrit.
Continuer encore.
Continuer signifie faire ou maintenir encore. Ainsi on dira dans le cadre d'un bulletin scolaire, Solal a fait des efforts, il faut continuer ainsi. Ou alors, Solal doit maintenir encore ses efforts.
Un extrait tiré de...
Oui, on l'entend souvent en littérature, oui. Et pourtant, un extrait est un élément tiré d'un ensemble. On dira par conséquent, elle va lire un extrait des Misérables ou elle va lire un passage tiré des Misérables. D'ailleurs, à ce propos, on me demande souvent si on peut modifier le déterminant dans un titre.
Oui, oui.
L'idéal est de trouver une autre façon de formuler les choses. Exemple, un extrait du roman Les Misérables. Mais si ce n'est vraiment pas possible, alors il faut faire une contraction du déterminant et donc éviter le peu harmonieux un extrait de Les Misérables.
Enfin, pour finir...
Ben oui, ça aussi, on l'entend très souvent. Enfin a pour synonyme, à la fin ou finalement, ou enfin pour terminer. Ajouter pour finir est donc redondant. On dira pour finir, je vous souhaite une bonne journée, et on ne dira pas du moins, je l'espère, enfin cette chronique est terminée.
Ben je vous souhaite quand même une bonne journée, Karine, et à demain, bonne journée.
Merci, à demain.
Retrouvez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia.
Et si nous partions à la rencontre des Bretons, explorateurs, artistes, combattants, entrepreneurs, depuis 1500 ans, leur audace, leurs engagements, mais aussi leur créativité ont conquis la France. Une histoire qui ne manque pas de sel.
Votre magazine Historia, en vente chaque mois chez votre marchand de journaux.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h27, les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. Bonjour Marcelo.
Bonjour Marc.
Michel Barnier, sorti de son silence hier, il est revenu sur son départ précipité en décembre pour régler ses comptes, mais pas seulement.
Michel Barnier n'a pas choisi n'importe quelle date pour sortir du bois. Il s'est exprimé le jour où son successeur, François Bayrou, lançait une grande conférence de presse sur le dérapage des comptes publics. La symbolique est claire. Rappelez que lui, Michel Barnier, s'était attaqué à ce fléau du déficit et plutôt courageusement, mais qu'il l'avait payé cher. Il a pointé la responsabilité des partis politiques qui l'ont fait chuter. Ils ont choisi, selon lui, la tactique plutôt que l'intérêt général. Dans son viseur, le RN et le Parti Socialiste. et il a ajouté qu'il fallait s'attaquer à la dette, réduire l'immigration et la bureaucratie. Au passage, il a entretenu le mystère sur une éventuelle candidature en 2027.
Ah, parce qu'il a donc des ambitions.
Oui, parce que quand il est interrogé, Michel Barnier, en tout cas, il reste évasif. Mais avec des formules comme ça, ça ne sert à pas de personnaliser les choses à ce stade. Nous verrons bien. Je veux rester utile. Voilà sa rhétorique qui consiste à ne fermer aucune porte, mais en coulisses, il n'est pas inactif. Il prépare un livre pour juin. Ça s'appellera « Ce que j'ai appris de vous, 50 ans de leçons politiques ». Depuis son départ, il a vu Gabriel Attal, Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy. Il a rencontré des patrons, des intellectuels. Il prépare un voyage en Chine. Il a créé une association. Il a même réuni, il y a 3 semaines, ses anciens ministres. Michel Barnier n'est pas du genre à afficher ses ambitions personnelles, confie l'un de ses fidèles, mais il ressent une sorte de frustration. Il est parti alors qu'il était populaire, il avait des chantiers à lancer, il avait imprimé quelque chose.
Y a-t-il un espace politique pour lui, Marcelo ?
Barnier pense que le prochain président doit être issu d'une coalition du droit, du centre et de la droite. Pour l'instant, justement, personne n'a tué le match dans ce périmètre. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, ça se bouscule au portillon. Je cite un sénateur centriste, Michel Barnier, est sorti de Matignon honorablement, montrant qu'il avait des convictions. Il a donc des chances, mais comme les autres, car le jeu est très ouvert.
Les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonne journée et à demain, Marcelo. Et bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Et le temps reste instable.
Ce matin d'abord des Pyrénées au Grand Est avec des orages près de la Méditerranée. Dans l'Ouest et le Nord, le calme revient, les températures 15 à Lille, 16 à Paris et 15 à Marseille.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin, la France plombée par sa productivité. Un rapport publié hier montre le retard sur nos voisins européens. Œil pour œil, dent pour dent, la France expulse 12 agents consulaires algériens et se plie au rapport de force. Et puis le Vatican ouvre la voie à la béatification d'Antoni Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia à Barcelone.
À la une, Charles, la machine est cassée depuis le Covid.
La France n'a toujours pas retrouvé son niveau de productivité d'avant 2020. C'est ce que souligne un rapport du Conseil national de la productivité, une institution publique qui pointe un retard par rapport à nos voisins européens, Éric Kioch.
Ce qui plombe notre productivité, c'est d'abord notre désindustrialisation. Le secteur manufacturier ne représente plus que 10% de notre PIB, contre 16,5% en 2000. Ensuite, les politiques de préservation de l'emploi, notamment durant la pandémie, ont contribué à plomber les statistiques, souligne le rapport du Conseil national de la productivité. Sa présidente, qui est aussi notre chroniqueuse, Natacha Valla.
Contrairement aux autres pays européens, chaque heure travaillée est moins productive et on travaille moins d'heures. Donc ces deux facteurs se renforcent l'un l'autre dans notre pays.
À court terme, l'essor de l'apprentissage tire la productivité française vers le bas. Mais à long terme, cette stratégie devrait au contraire la doper. Et d'autres leviers pourraient permettre à la France de se remettre en selle. L'industrie a beaucoup investi dans l'automatisation et la robotisation, mais c'est moyens pourraient être mieux utilisés, poursuit l'économiste.
Si on avait plus d'investissements du côté data, l'exploitation de la donnée et l'intelligence artificielle, ça rentrerait en complémentarité avec l'automatisation. Elle n'est pas en mesure de déployer son plein potentiel aujourd'hui.
Pour investir, le Conseil national de la productivité suggère une meilleure orientation des aides à l'innovation, comme le crédit impôt recherche, ou encore une mobilisation plus forte des 600 milliards d'épargne disponibles en France.
La France plombée également par le taux d'activité des jeunes et des seniors, souligné hier par François Bayrou lors de sa conférence sur les finances publiques. Un discours pour plaider plus de travail mais pas plus d'impôts. Les premières orientations du budget 2026 sont attendues avant le 14 juillet.
7h32 sur Radio Classique, la France riposte contre l'Algérie.
L'espoir n'aura pas duré très longtemps après l'appel entre présidents fin mars. L'Algérie a expulsé 12 agents consulaires français. La France expulse à son tour 12 agents consulaires algériens et rappelle son ambassadeur à Alger. Au cœur des tensions, il y a notamment la condamnation et la détention de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien. Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt, fait partie de son comité de soutien.
C'est vrai que le contexte n'était déjà pas très favorable. Ça ne peut que rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude. Et maintenant, il se trouve au centre d'un jeu qui est extrêmement tendu entre nos deux diplomaties et il en fait les frais. On voit vraiment qu'il sert d'otage dans un bras de fer entre nos deux pays. Il n'est pas prisonnier, Boualem. Il faut le rappeler, il est otage d'un régime qui est tout sauf démocratique. Et un écrivain ne doit en aucun cas être cette victime-là. Il ne faut pas oublier que Boualem est quelqu'un qui a 80 ans, il est malade. Il est incarcéré pour des prétextes absolument futiles et fallacieux. Dans beaucoup de pays, il serait libéré immédiatement pour des raisons humanitaires. Et là, ce n'est pas le cas. Il est maintenu en détention, ce qui est quand même un scandale absolu.
Philippe Claudel avec Lauriane Toulmont et les filles de Boualem Sansal écrivent une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander de ne pas l'oublier. Lettre à lire dans le Figaro. Le parquet national antiterroriste se saisit après des attaques contre des prisons. Une série depuis dimanche, tag incendie et même tir de Kalachnikov à Toulon. La seule piste, ce sont ces lettres DDPF pour droit des prisonniers français. Ça n'est pas une revendication, dit le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui pointe la responsabilité du narcotrafic. Le groupe DDPF alimente un canal sur l'application Telegram avec des vidéos des attaques.
Radio Classique 7h34, Charles, des psychotropes en rupture de stock.
Ce qui met en danger des millions de patients selon les psychiatres qui demandent dans une tribune au gouvernement d'agir, car la liste de médicaments pour traiter les troubles psychiques en pénurie s'allonge. Plus d'une dizaine, Emmanuel Loeb est psychiatre libéral.
C'est une réalité qui est de plus en plus prégnante. Le médicament qui permet de prendre en charge le trouble de déficit de l'attention devient aussi très difficile d'accès. Et donc ça entraîne des ruptures de prise en charge pour les patients. Et maintenant, on se retrouve aussi avec des ruptures de quétiapine, qui est un traitement qui peut être utilisé dans la schizophrénie ou dans les dépressions résistantes. Des patients qui ont pris, par exemple, de la quétiapine pendant relativement longtemps peuvent avoir des syndromes d'arrêt qui sont parfois très compliqués à gérer. C'est assez paradoxal de voir plein de campagnes sur la santé mentale comme cause nationale et se retrouver avec des problématiques d'approvisionnement pour les médicaments utilisés en psychiatrie.
Propos recueillis par Rémi Pfister. La balle est dans le camp de la Chine, selon les États-Unis, référence au conflit sur les droits de douane. La Chine a suspendu la livraison de Boeing alors que les États-Unis ouvrent la voie à des droits de douane sur les minerais importés.
Enfin, direction le Vatican. Le Vatican qui élève Anthony Gaudi au rang de vénérable.
La distinction était demandée par le diocèse de Barcelone où l'architecte a façonné une partie de la ville. Une demande vieille de 20 ans qui ouvre la voie à sa béatification, Nina Droff.
Surnommé l'architecte de Dieu, Anthony Gaudi a construit et rénové plusieurs bâtisses religieuses, avec comme point culminant bien sûr la cathédrale de la Sagrada Familia, dont l'architecture est un hommage grandiose à la vie du Christ, comme l'explique Isabelle Morin-Loutrel, historienne de l'architecture.
C'est quelqu'un qui connaissait bien les Écritures et qui a permis, à travers la sculpture de la Sagrada Familia, de mettre le focus en fait sur la Sainte Famille. La Vierge et l'enfant sont représentés avec beaucoup d'insistance. Pour lui, il y avait une relation entre la terre et le ciel à faire. Et cette relation, elle se faisait par le biais des tours que l'on élève toujours plus haut, quoi.
Outre ses œuvres, ce titre de vénérable honore aussi la piété de l'artiste.
Gaudi, de son vivant, était quand même quelqu'un d'extrêmement suivi et presque prié, quoi, par toute une population catholique en Catalogne. Lui-même qui était quelqu'un d'une foi chrétienne profonde. Il avait une aura quand même déjà très installée.
Mais le chemin vers la béatification de Gaudi est encore long. Ce titre exige la survenue d'un miracle en lien avec l'artiste et un deuxième miracle est nécessaire pour être élevé au rang de saint.
Les explications de Nina Droff.
Et c'était le journal de Charles Bonnet. Rendez-vous à 8h30. Dans un instant, un accord sur le nucléaire iranien sera-t-il le premier succès diplomatique de Donald Trump depuis son retour aux affaires? L'écho du monde de Nicolas Tenzer, 7h36 sur Radio Classique.
Tout de suite, la Minute des épargnants avec l'affaire.
Gérard Beckerman, bonjour. Vous venez de créer Affaire Génération. En quoi ce contrat d'assurance vie ouvre-t-il de nouveaux horizons?
Nous avons été les premiers en 1976 avec le contrat monosupport qui deviendra le multisupport et nous voulons, une fois de plus, être l'étendard avec Affaire Génération. C'est une offre qui prime la fidélité, puisque l'adhérent qui restera engagé sur une période de 8 ans verra sa rémunération de l'assurance vie à l'affaire valorisée une seconde fois par une prime. Et Affaire Génération aura deux avantages. Nous profitons des opportunités avec des taux très élevés en ce moment, 3, 3,5 et parfois 4 %. C'est une bonne rémunération, nous primons la fidélité et nous maintenons les frais parmi les plus bas du marché.
Merci Gérard Beckerman.
Ensemble, construisons une génération d'avenir. Rejoignez l'Association française d'épargne et de retraite. Rendez-vous sur affaire.fr, A-F-E-R.fr.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec Real Madrid Arsenal ce soir à 21h sur Canal+. Et l'UEFA Europa League avec Manchester United Lyon demain à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Bonjour, c'est Alain Duo. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht Ponon raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Shani Di Luca et John Gade au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaud-Davary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Dans un instant, l'écho du monde de Nicolas Tenzer.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Bien sûr que je vous comprends, Monsieur Martin, mais comprenez-moi vous aussi. Si je ne vous paye pas, c'est que je ne peux pas. J'ai un bilan à produire, puis j'ai des actionnaires. Je veux qu'ils soient contents, mes actionnaires, vous comprenez ?
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Nicolas Tenzer pour l'écho du monde à 7h39. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Samedi, se sont tenus des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien sous l'égide du sultanat d'Oman. Les discussions reprennent ce week-end. Les deux parties ont tenu des propos encourageants jusqu'ici. Cela semble un revirement complet par rapport à la première présidence Trump.
Pour le moins, le 8 mai 2018, Trump avait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 et associant les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. Le retrait américain avait créé la consternation auprès des autres partis qui avaient décidé de continuer à respecter l'accord. Il prévoyait notamment la fin de l'enrichissement de l'uranium par Téhéran, un taux limité à 3,67%, l'arrêt de la production de plutonium et un contrôle régulier de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en contrepartie de quoi les sanctions envers l'Iran seraient levées. Résultat du retrait américain, l'Iran avait poursuivi l'enrichissement de son uranium jusqu'à 60%. Il faut un taux de 90% pour fabriquer une bombe atomique. L'accord avait été critiqué à l'époque, d'une part parce qu'Obama avait fermé les yeux sur les exactions de Téhéran en Syrie pour ne pas compromettre sa conclusion, d'autre part parce que l'accord était muet sur les autres composantes de la menace iranienne, fabrication de missiles balistiques et déstabilisation de plusieurs pays du Moyen-Orient.
Et depuis, Nicolas, les choses ont évolué.
Oui, d'abord, Trump espère engranger des succès diplomatiques. Peut-être cela-t-il sera plus aisé avec l'Iran qu'avec la Russie. Ensuite, l'Iran est considérablement affaibli. Son bras armé, le Hezbollah, a perdu de sa superbe après les attaques israéliennes contre ses bases au Liban et l'exécution de plusieurs de ses dirigeants. Le régime Assad est tombé. L'Iran connaît une crise économique encore plus forte et a besoin d'un bol d'air dans un contexte de contestation accrue. Un président moins dur, quoique non vraiment modéré, Massoud Pezeshkian, est arrivé au pouvoir le 28 mai 2024. Reste un autre facteur, moins avouable. Trump et ses conseillers sont très alignés sur la Russie, qui est un allié de l'Iran. Il n'est point fortuit qu'après les premières discussions et avant la prochaine rencontre, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi se rende à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov et d'autres responsables russes.
Et comment les pays européens, Nicolas, partie prenante à l'accord de 2015, voient-ils ces négociations ?
Ils les saluent avec prudence et vigilance, comme l'a déclaré notamment Jean-Noël Barrot. Après avoir critiqué le retrait américain, il ne pouvait faire autrement. Rigne révélateur, en même temps, la France a demandé hier à l'Union européenne de sanctionner 7 personnalités et 2 entités iraniennes accusées de prise d'otages de ressortissants européens. L'Europe, et pas seulement Israël, serait la première visée si Téhéran mettait à bien son programme nucléaire. Les Européens demandent un rapport circonstancié à l'AIEA. L'obtention de la bombe n'est toutefois pas pour demain. Même si l'Iran réussissait à la fabriquer, entre le développement et les essais, qui ne passeraient pas inaperçus, il faudrait plusieurs années avant qu'elle soit opérationnelle. Restent d'autres inquiétudes. L'Iran fournit massivement Moscou en drones qui assassinent quotidiennement des civils iraniens, en échange de quoi Téhéran reçoit une aide russe pour son programme de missiles balistiques. Même affaibli, le Hezbollah demeure une menace sérieuse. Il ne faudrait pas qu'un accord nucléaire, aussi justifié soit-il, soit l'arbre qui cache la forêt des risques posés par le régime policier de Téhéran. Le pire, pour le peuple iranien comme pour le monde, est qu'il soit relégitimé et renforcé.
L'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Merci Nicolas et à demain. Dans un instant, Augustin Lefebvre sort sa table de jeu et lance une partie de Monopoly géante dans son journal imprévisible. Radio Classique, 7h43.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bons d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Radio Classique et la salle Gaveau présente Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique, mercredi 4 juin, salle Gaveau, à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayoud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Radio Classique, le journal imprévisible.
On le reconnaît, ce petit bruit. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Les dés sont lancés, le Festival de Cannes commence aujourd'hui. Pas celui du cinéma, celui des jeux de société. Et cela vous a donné envie de vous pencher sur ce qui est sans doute le plus célèbre d'entre eux, le Monopoly.
Oui Marc, sortez les billets, les petites maisons, les souvenirs d'enfance et la mauvaise foi. Préparez-vous à acheter les Champs-Élysées. Présentation en 1988.
Une chose est sûre, le Monopoly se porte bien. On estime qu'actuellement 250 millions de gens dans le monde y jouent et qu'en France, plus d'un foyer sur deux possède un jeu. Le seul pays où le Monopoly est encore banni, c'est l'URSS. Imaginez posséder un hôtel sur la Place Rouge et trois maisons avenue Karl Marx.
Mais l'erreur sera réparée dès l'année suivante, en juin 89.
Monsieur Gorbatchev peut se rassurer, ni la Place Rouge ni le Kremlin ne sont à vendre. Sachez que les amendes pour excès de vitesse ou état d'ivresse ont été supprimées. On ne plaisante pas avec ces délits en Union soviétique. Vous allez quand même en prison ? Rassurez-vous, elle n'a pas été remplacée par un goulag à régime sévère. On en sort facilement. Le reste du jeu, loyer, maison, emprunt, revenu, hôtel, hypothèque, une seule règle, le profit.
Les versions se multiplient.
Hein, ah oui, en fonction des pays. Ouais,
bah
oui.
Et puis aussi, avec les règles différentes, il y a une édition pour les tricheurs, il y a une édition en braille, plus récemment, il y a une édition aux couleurs du jeu vidéo à succès Fortnite. Et au début des années 2000, eh bien, on change de devise.
220 euros, Madrid, Espagne, j'achète.
Si vous pensez en francs, ça ne marchera pas.
Tu me dois 28 euros.
Ça fait déjà un petit peu bizarre de payer en euros, de dire euros, déjà, au lieu de francs. Ouais, ça nous prépare.
Se préparer, c'est tout l'enjeu. À un an du passage à l'euro, les jeux sont presque les seuls outils pour dédramatiser une monnaie encore inconnue du grand public.
La multiplication des versions ne va pas sans scandale. Récemment, l'une d'elles, destinée aux millennials, les jeunes des années 90-2000, abandonne les propriétés avec un slogan « Oubliez l'immobilier, de toute façon, vous n'en avez pas les moyens ». Mais la plus grosse polémique, et j'en suis d'avance désolé, concerne mon cul.
Faut voter pour mon cul. Ah. Hein, pour le Monopoly.
Vous êtes au courant ?
Tout le monde est au courant. Dans le café du village ou à la maison de retraite, une fièvre contagieuse s'est emparée des 1300 habitants.
Je suis en campagne pour mon cul, attention. Vous rendez compte qu'aujourd'hui nous avons plus de 20 000 voix d'avance par rapport à Dunkerque. Formidable.
Et oui, formidable. Formidable. Nous sommes en 2007. Mon cul dans le Lot arrive en tête d'un sondage lancé par le fabricant du jeu pour trouver un remplaçant à la rue de la Paix. Mais le dit fabricant ne goûte guère l'esprit taquin des internautes et garde le second, Dunkerque. Polémique et indignation générale, pour éviter la casse-prison, un porte-parole de l'entreprise doit s'expliquer aux 20h de France 2.
Notre produit est un produit qui est destiné à un public familial. On a eu également des personnes qui nous ont dit « mon cul sur un plateau, ça le fait pas très bien ».
En lot de consolation, Hasbro propose d'éditer un Monopoly spécial mon cul, plus humoristique que la version France. Sortie prévue en mars prochain pour les municipales.
Ah oui, tout est bien qui finit bien,
tout le monde trouve son compte,
pour mon cul. Marc, saviez-vous que pour les passionnés, il existe des championnats de France de Monopoly et même du monde ? Reportage en 1996, durant lequel le représentant français donne sa technique et ça va peut-être vous surprendre.
Ça se présente comment là pour vous ?
Très mal. Mais je vais quand même gagner, mais très mal.
La seule stratégie de jeu est la tension et la haine qui se dégagent petit à petit pendant la partie. Donc il faut qu'un dominant se dégage et il faut que ce dominant perde. Donc il faut se placer immédiatement en dessous du meneur.
Oui, voilà pourquoi on n'est pas au championnat de France de Monopoly.
Et voilà pourquoi on se dispute sans arrêt avec les parties. Aujourd'hui, le jeu est passé dans notre langage courant avec des expressions comme « erreur de la banque en votre faveur » ou « passer par la case départ sans toucher 200 euros ». Tout le monde connaît le Monopoly, mais son histoire un peu moins. Figurez-vous qu'à l'origine, son sens était tout à fait différent. Récit du journaliste Jamy Gourmaud.
L'histoire remonte à 1904, lorsque l'autrice et activiste Elisabeth Magui imagine un jeu destiné à sensibiliser le public au risque du capitalisme. Elle entend ainsi dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Le Landlord's Game, littéralement le jeu du propriétaire, ne connaît pas le succès espéré et disparaît de la circulation.
Et il est récupéré par un certain Charles Darrow en 1935, qui en fait un jeu de spéculation, le brevette, le vend, sans créditer Elisabeth Magui.
Copié et entièrement détourné, le Landlord's Game devient le Monopoly. Le succès est planétaire et Charles Darrow est le premier concepteur de jeux à devenir millionnaire.
Signe d'un succès qui ne fléchit pas un film est en préparation avec à la production l'actrice Margot Robbie. Il y a déjà eu plusieurs projets évoqués ces dernières années. Pour la chanson, c'est déjà fait et je conclus avec Zazie.
Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse en a bien mérité. De toucher une avance, si c'est pour nous rendre la caisse à la commune.
Zazie et son hôtel rue de la Paix pour conclure ce journal imprévisible d'Augustin Lefebvre que l'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse. Une question dans un instant. Le foot français est-il condamné à l'écran noir ? David Barou nous éclaire dans son décryptage écho. Radio Classique, 7h51.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour accélérer la transition agroalimentaire en déployant des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Retrouvez Fabrice Lundy dans Invivo, l'innovation agricole en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique.
Les ETI sont essentielles dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particuliers jusqu'au 30 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et David Barrou pour son décryptage écho à 7h53. Bonjour David.
Bonjour Marc.
Le football français traverse une nouvelle crise.
Oui, oui, oui. Alors dans le football, il y a les bonnes surprises, comme le PSG hier soir qui a réussi à se qualifier. Il y a les défaites sportives et puis il y a les catastrophes économiques. Et là, franchement, on est dans le dernier cas. Hier, la Ligue de football professionnel, qui est censée défendre les intérêts des grands clubs de Ligue 1 et 2, a été obligée de reconnaître qu'elle n'aurait peut-être plus de diffuseurs télé pour l'essentiel des matchs l'an prochain. DAZN, qui est cette chaîne qui, depuis le début de la saison, a en effet avoué que l'équation économique ne tenait pas la route. Ils dépensent autour de 400 millions par an, mais ils n'ont séduit que 500 000 abonnés. Du coup, ils perdent entre 200 et 250 millions. C'est énorme, ça ne peut pas continuer. Et donc, cela risque bien de s'arrêter.
Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les clubs français aussi.
Ouais, c'est à nouveau l'affaire Mediapro. C'est une catastrophe, car tous les clubs ont besoin de recettes audiovisuelles pour boucler leur budget. Aujourd'hui, il y a un diffuseur et plein d'équipes sont déjà en perte économique. Demain, s'il n'y a plus de diffuseur, il y aura encore plus de pertes. Encore plus d'obligations de vendre tous les ans ses meilleurs joueurs, le mercato, pour gagner un peu d'argent sur le marché des transferts. Le foot français est déjà plus pauvre que les autres et en plus, en vendant ses talents, il s'appauvrit tous les ans sportivement. Et le risque, c'est que la Ligue n'arrive pas à trouver un diffuseur prêt à mettre plusieurs centaines de millions d'euros sur la table pour la saison prochaine.
Alors David, quelles sont les options de la Ligue ?
Il n'y en a pas beaucoup. La première, ça serait d'essayer de trouver encore un terrain d'entente avec DAZN pour qu'il continue. Mais les deux camps semblent aujourd'hui tout proches de la rupture et je pense que le match va plutôt se terminer devant les tribunaux. Deuxième option, relancer un appel d'offres dans l'urgence pour trouver un nouveau diffuseur fin août. Mais les candidats ne risquent pas de se bousculer. Le seul diffuseur potentiel, ça serait Canal+, mais il a coupé les ponts avec le foot français et n'investit plus que sur le foot européen. Il n'a pas franchement envie d'aider, et d'ailleurs, même s'il en avait l'envie, c'est pas sûr qu'il en ait les moyens. Et il faudrait que les droits télé baissent beaucoup et que Canal puisse partager l'addition avec beIN, par exemple. C'est pas impossible, mais c'est franchement compliqué. Dernière option, que la Ligue lance sa propre chaîne. Sur le long terme, si ça marche, ça serait la solution la plus rentable, car s'il y a des bénéfices, tout tomberait dans les caisses de la Ligue et des clubs. Mais cela représente un véritable risque économique, car si ça marche pas, par contre, ce sont les clubs qui payent l'addition et qui assument le risque. Et à court terme, c'est économiquement très compliqué, car on commence la saison avec zéro abonné, zéro recette, juste des dépenses. Les clubs ne peuvent pas faire de budget, et si les abonnés ne sont pas au rendez-vous, comme avec DAZN, ça sera la faillite pour pas mal de clubs, et le déclin pour d'autres.
Le décryptage écho de David Barrou. Bonne journée David, 7h56, Franck Ferrand nous retrouve, nous attend avec sa machine à remonter le temps. Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors, quel 16 avril ressuscitez-vous aujourd'hui ?
Vous savez que certains chercheurs de tout temps ont donné de leur personne pour la science. C'est le cas du chimiste suisse Albert Hofmann en ce 16 avril 1943. Mmh. Il a 37 ans, Hofmann est employé dans les laboratoires Sandoz à Bâle. Et ce jour-là, par mégarde, il s'injecte un dérivé de l'acide lysergique dont il était en train d'étudier les propriétés stimulantes. Et voilà ce qu'il raconte. « J'avais du mal à parler de manière intelligible. J'ai demandé à ma laborantine de m'escorter jusque chez moi. Sur le chemin, mon état a commencé à prendre des proportions inquiétantes. Tout ce qui entrait dans mon champ de vision tremblait et était déformé comme dans un miroir incurvé. J'avais l'impression de ne pas avancer. » Il arrive chez lui, il expérimente une perception altérée de la réalité qui lui fait voir sa voisine qui lui rend visite comme une sorcière malveillante au masque tout coloré. Toutes mes tentatives pour mettre fin à la désintégration du monde extérieur et à la dissolution de mon ego semblaient peine perdue, dira-t-il encore dans son autobiographie. J'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que Albert Hofmann vient de faire le premier trip de l'histoire. l'histoire de du LSD.
On l'avait deviné, effectivement. De ça à Woodstock, oui. Franck, il n'y a qu'un pas.
Eh ben oui, il n'y a qu'un pas. Enfin, il y a quelques années quand même, mon cher Marc, puisque la drogue ne va pas ne va pas se répandre aussi facilement. Enfin, quand même, l'écrivain Timothy Leary va promouvoir publiquement le LSD. Vous savez, en populariser des slogans tels que Turn on, turn in, drop out, vas-y, mets-toi en phase et décroche. Et effectivement, ce LSD va connaître l'apogée que vous savez avec le festival de Woodstock. Ça, c'est en 1969. C'est l'époque du Flower Power. Bon, bref, c'est les hippies, etc. LSD qui, évidemment, ne va pas tarder à rentrer sous le coup de la loi, quand même. Quand on a envie de dire heureusement.
Heureusement. Le point du jour totalement sobre, hein, vous me le garantissez,
oui,
Franck.
Sûr.
À tout à l'heure, 9h. La météo, Virginie Fulpin, s'est agitée dans le ciel.
Ouais, de la pluie des Pyrénées à l'Alsace, de la neige dans les Alpes et des orages au bord de la Méditerranée. C'est plus calme dans le quart nord-ouest avec des éclaircies en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France. 2 degrés au minimum à Rennes ce matin, 14 en Corse, il fait 9 à Paris, à Bordeaux et à Lyon.
Cegid vous présente les innovations IA au service de la gestion d'entreprise avec Fabrice Lundy.
L'intelligence artificielle révolutionne les modes de gestion en automatisant certaines tâches et en améliorant l'analyse des données. Alors quelles sont les transformations majeures dont peuvent profiter les entreprises ? Guillaume Rejoux, vous êtes le directeur marketing chez Cegid.
On a beaucoup de fonctions métiers qui sont en cours justement d'implémentation de l'intelligence artificielle. On pense aux fonctions de trésorerie qui vont permettre d'améliorer les prévisions de cash. Au niveau des RH, on a aujourd'hui des outils qui vont permettre d'aller améliorer la rétention, l'attraction des talents dans les outils pour permettre de trouver les bons collaborateurs éventuellement. Et c'est clairement des fonctions que nous utilisons chez Cegid. Aujourd'hui, ça nous permet concrètement d'améliorer très précisément notre productivité sur un certain nombre de domaines, le marketing, les RH. Le support et l'assistance, l'intelligence artificielle nous permet vraiment d'aller accélérer notre transformation.
Merci Guillaume Rejoux.
Retrouvez toutes les solutions IA